Ok, donc tantôt, on était dans 1 Corinthiens 15. On a lu aussi Apocalypse 19, 1 à 10 et Apocalypse 22, 6 à 21. Ça, c'était en guise d'introduction. Mais contrairement à ce que Pasteur Guillaume fait habituellement, ben, en tout cas, on ne retournera pas dans ces passages-là. Mais seulement que. Le titre de mon message ce matin, c'est Adore Dieu. Donc, c'est ce que l'ange disait à Jean, à l'apôtre Jean, là, dans l'Apocalypse. À deux reprises, dans les deux passages qu'on a lus dans l'Apocalypse, il disait Adore Dieu. Puis, c'est ça, Adore Dieu. Donc, Seigneur Dieu, ce matin, que mes paroles ne soient pas les miennes, mais que ce soit tes paroles, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Dieu, et guide-moi dans ce que je vais avoir à partager ce matin. Que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est quoi adorer? Adorer veut dire rendre des honneurs, traiter avec un grand respect. Aimer passionnément, admirer, affectionner, aimer par-dessus tout, chérir, avoir un désir très vif, être fortement attaché. Dans notre vie de tous les jours, on entend souvent le mot adorer pour dire qu'on aime beaucoup. On l'utilise peut-être même, j'adore ma voiture, j'adore ma mère, j'adore mon chien, j'adore mon chat, j'adore les crêpes de ma grand-mère. On peut adorer beaucoup de choses. Mais avec ce qu'on vient de lire sur la définition d'adorer, oui, on peut aimer beaucoup quelque chose ou quelqu'un. On peut aimer cette personne ou cette chose au point même de l'idolâtrer, d'en faire une idole. Et on peut avoir une idole dans notre vie. Cette idole, ça peut être un objet précieux pour nous. Ça peut être la bague de notre grand-mère, notre téléphone. Il y en a pour qui ça devient vraiment une idole. Notre voiture. Notre maison, notre travail, notre télé, même notre mari, notre femme, ça peut devenir une idole dans notre vie. Nos enfants. Les enfants, on les aime beaucoup, nos enfants. Mais ça ne doit pas devenir une idole dans notre vie. On les aime beaucoup, vraiment. Notre femme, notre mari aussi. Parfois trop, on les aime parfois trop, au point même de les faire passer avant Dieu, notre Créateur. Puis avant d'aller plus loin, c'est important de considérer Dieu. Bon, Dieu est un. Le Père, le Fils. Le Fils, c'est par lui que le monde a été créé. Dans l'Évangile de Jean, Dieu nous dit que le monde a été créé par lui. Donc, Jésus, le Fils, c'est pas seulement quelqu'un qui était là. Qui a un rôle secondaire dans la création et dans la rédemption. Il est le personnage principal dans tout ça. Puis Dieu et le Saint-Esprit aussi. Et le Saint-Esprit, c'est pas une force agissante, mais c'est une personne à part entière de la Sainte Trinité qui est l'unité de Dieu. En Matthieu 10, 37, Jésus nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et Jésus demande un amour particulier. Un amour au-dessus de l'amour que l'on peut avoir pour quoi que ce soit d'autre et qui que ce soit d'autre. Et Jésus est le Fils de Dieu, pleinement homme, mais également pleinement Dieu avec le Saint-Esprit et le Père. Le Dieu trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le seul Dieu créateur. Bon, là, j'ai donné l'accent un peu sur la Trinité parce que ça va être important pour ce que j'ai à partager pour la suite. Donc, Jésus nous demande de tout abandonner pour lui, pour Dieu. Tout abandonner pour lui, tout abandonner, vraiment tout. On commence à voir un peu plus. Qu'est-ce que ça implique une réelle adoration? Jésus nous demande de l'adorer. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus ne nous dit pas ici de mettre de côté la personne, les personnes qui nous sont chères. Jésus ne nous dit pas ici qu'on ne doit pas aimer notre famille ou nos enfants, mais de le préférer, lui, avant tout. Et ce vrai amour vertical envers lui se reflètera assurément à l'horizontale, autour de nous. Jésus nous a dit encore, « Aimez-vous les uns les autres, et aime ton prochain comme toi-même. » Et même ailleurs, la parole nous dit, « L'homme s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Mais si ces personnes aussi chères qu'elles puissent être dans notre cœur nous empêchent de suivre Jésus, de suivre Dieu, alors posons-nous la question de savoir qui est l'amour suprême dans notre vie. Qui est-ce que nous adorons vraiment au-dessus de tout? Dieu nous demande de l'aimer d'une manière unique, d'une manière sans égale, sans commune mesure avec l'amour que l'on pourrait porter envers quelque chose ou quelqu'un. Dieu nous demande de l'adorer. Je vais essayer de pas trop tousser ce matin. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, entre je tousse tout le temps, été comme hiver. Bon, vous pouvez aller dans Deutéronome 6, au verset 4. On va lire les versets 4 à 9. Je vais en profiter pour tout ça. C'est quelques versets dans Deutéronome 6, 4 à 9. Ces quelques versets sont ce que les Juifs appellent le schéma. S-H-E-M-A. Mais en tout cas, c'est la manière qu'on l'écrit en français, mais c'est en hébreu. C'est un des deux passages avec Deutéronome 6, 13 à 21 que les Juifs mettent dans une petite boîte au chambranle de leur maison et de leur synagogue. Cette petite boîte contenant ces deux passages s'appelle la Mezouza. Donc, excusez-moi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Ça, c'est de l'adoration. Dieu veut que l'on soit absolument tout à lui. C'est vraiment, en tout cas, ce passage-là, le schéma, en tout cas, c'est vraiment autre chose. C'est pas seulement de dire, bon, OK, moi, je vais aller adorer Dieu dimanche matin. Je vais être là pour lui, en dehors de mon travail, quand je fais autre chose. Mais c'est de l'avoir en tête à longueur de journée. Méditer sa parole à longueur de journée, de lire sa parole, de partager à longueur de journée. Que nos pensées, nos cœurs et toute notre âme soient en parfaite adoration devant lui. Il est important de noter que dans les manuscrits du Deutéronome, au verset 4, il est écrit en gros caractères « Écoute » et « un ». Les mots « écoute » et le mot « un », ces mots-là sont en gros caractères, puis ça a une importance particulière. C'est lourd de sens, c'est tout le sens que le reste du message, tout ce qui va suivre, en fait, ça a une importance vraiment capitale. C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où est-ce que les mots sont écrits en gros caractères comme ça. Dieu veut que nous ayons une toute particulière attention sur ces paroles qu'il va dire ensuite. Écoute, Israël, Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Ou plus littéralement, écoute, Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Bon, il y aurait beaucoup à dire cette seule phrase, mais c'est ça comme... bon, ils utilisent le mot... entre, je n'irai pas plus dans le détail là-dessus. Là, il poursuit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu est absolument en droit de demander de nous que nous lui rendions cet amour au-dessus de tout, cette adoration, tout simplement parce qu'il est Dieu. Il est notre Créateur. Sans lui, nous n'existerions même pas. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dieu ici s'adresse au peuple d'Israël. C'est pour cette raison qu'il parle ici de commandements. Mais pour nous, chrétiens, qui sommes sous la grâce et non plus sous la loi, ces paroles qui suivent dans le schéma, nous pouvons les appliquer à l'évangile de Dieu, selon laquelle nous-mêmes avons cru. Nous-mêmes qui avons été sauvés par le sacrifice parfait de Jésus à la croix du calvaire. On pourrait paraphraser de cette manière. Écoute, toi qui t'appelles de Dieu, toi qui es sauvé par sa grâce infinie, dans tout son amour, par le sacrifice parfait de Jésus, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'Évangile éternel que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu le répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu l'attacheras à tes mains comme un signe. En fait, tout ce que tu vas faire de tes mains va témoigner de l'Évangile du Seigneur. Il sera comme une marque entre tes yeux. Toutes tes pensées vont être là. Donc, tout ce que tu feras de tes mains, toutes tes pensées glorifieront Dieu seul à cause de l'Évangile, de cette excellente nouvelle éternelle qu'il t'a promis par son amour et sa grâce envers toi. Tu écriras les paroles de cet Évangile éternel sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Tu écriras cet Évangile partout où tu seras. Bon, ici, c'est une paraphrase du schéma. Mais seulement que je crois que cette paraphrase-là, en tout cas, s'applique bien quand même à la vie qu'on doit vivre en tant que chrétien. C'est, en tout cas, moi c'est, quand je lisais ça, le jour que le Seigneur m'a sauvé, en 2005, puis le jour qu'il m'a sauvé, j'ai lu cette partie-là, j'ai ouvert ma Bible comme ça, puis bon... je me suis dit, bon, le Seigneur va me parler à travers quelque chose qui où est-ce que je vais ouvrir ma Bible. Je suis tombé là-dessus, sur le schéma, sur ces versets-là là, qu'on vient de lire. Puis moi, j'ai tout de suite vu la vie chrétienne à travers ces paroles-là. C'était des paroles qui s'appliquaient, qui étaient adressées aux Juifs, aux Israélites, mais pour nous, chrétiens, il y a quelque chose à tirer vraiment de ces paroles-là. C'est quand je commençais à considérer vraiment Dieu, tout son amour pour moi et sa grâce infinie qu'il m'a faite, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir fou aux yeux des hommes. Bon, je suis encore, mais... Même avant, je l'étais, mais autrement. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 1:18. Ma folie de Dieu et de son Fils Jésus-Christ est soudainement devenue manifeste pour ceux qui m'ont entouré à l'époque. Certains se sont moqués de moi, d'autres m'ont fui, d'autres m'ont pris en pitié. Comme si j'étais dans une souffrance, d'autres m'ont prié de revenir à la raison. Et quoi d'autre? La gloire à Dieu seul. Le schéma que l'on vient de lire est particulièrement cette paraphrase du schéma qui s'adresse directement à nous, chrétiens, nous qui nous fait voir cette folie amoureuse que l'on doit avoir pour notre Seigneur Dieu, pour le Père, pour le Fils, pour le Saint-Esprit. Je dis ici folie amoureuse, mais je ne parle pas de ce que l'on appelle un coup de foudre. qui est un amour très fort, mais passager et sans fondement, parce qu'il est appuyé sur l'émotion et non le réel amour que Dieu seul peut nous donner. Parce que l'amour même est un attribut de Dieu. Dieu est amour. Donc Dieu, dans son amour et sa grâce infinie, lui qui nous a aimés le premier, avant même la fondation du monde, qui nous dit dans Éphésiens 1, Dieu, comme il est dit dans ce chapitre, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous puissions célébrer sa gloire. Allons lire sur l'amour que Dieu a envers nous dans Éphésiens 1-3. Bon, je l'ai ici. Vous pouvez aller dans Éphésiens 1-3 si vous voulez. L'apôtre Paul nous disait qu'il avait une épine dans la chair. On a tous une épine dans notre chair. Moi, j'en ai une en particulier dans ma gorge. Je vais des fois que ça me pique dans la gorge, puis c'est pour ça que je me mets à tousser. Ah, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme tu veux. Comme tu veux, je peux l'essayer, on va voir. Ben, c'est ça, l'été comme l'hiver, en tout cas, quand il y avait la COVID, en tout cas, des fois, c'était gênant, parce que là, tout le monde avait cette crainte-là de la COVID, puis moi, je passais mon temps à tout ça, mais inquiétez-vous pas, j'ai pas la COVID. Fallait toujours que je me justifie. Mais Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés, pas beaucoup plus. Oui, Éphésiens 1-3, est-ce que je vais être capable de parler avec ça dans la bouche? Béni soit Dieu. En tout cas, je vais te prendre tantôt. Je suis plus capable de parler avec une pastille de même. Béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, dans son bien-aimé, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. À lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque Dieu met un sceau, il ne l'enlève pas.
Amen.
Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est un passage vraiment que j'ai... Éphésiens 1, la fois que je suis allé au Rwanda pour mon mariage, en tout cas, j'étais dans l'avion, j'ai ouvert la Bible encore comme ça, je suis tombé sur Éphésiens 1, je me suis dit, bon, je vais lire Éphésiens 1, ça m'a alimenté pendant un mois et demi de temps, en tout cas, Éphésiens 1. C'est tellement riche, c'est tellement puissant ce message-là. On voit vraiment l'amour que Dieu a pour nous. Maintenant, lorsque l'on considère la grâce que Dieu nous a faite, en son Fils Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous délivrer de l'esclavage du péché, de la perdition éternelle du péché, par amour pour nous. Cette grâce que personne de nous, aucun humain ne peut mériter, parce que nous étions tous héritiers du péché d'Adam, nous méritions tous d'aller dans l'état ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Mais Dieu nous a fait grâce par son amour. C'est tellement grandiose, c'est tellement magnifique lorsque l'on considère tout ce que notre Créateur Dieu a fait pour nous. Comment est-ce que on pourrait pas avoir ce désir ardent de se prosterner devant Dieu? Se prosterner physiquement, se prosterner spirituellement surtout. Parfois, quand tu es en train de conduire notre voiture, on ne peut pas se prosterner vraiment, ça va mal. En tout cas, mais...
Bon.
Pardon?
Toujours
essayer. Ouais, ben en tout cas, peut-être Maxime l'a déjà essayé en conduisant son camion, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Il y a quelque chose de particulier, Maxime, que nous, on n'est pas capable. Que... Comment est-ce que l'on ne pourrait pas avoir ce désir ardent de louer le Seigneur, de l'adorer, de célébrer éternellement sa gloire parce qu'il est glorieux? Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. C'est une journée particulière aujourd'hui. Il est bon de se rappeler que la Pâque est à l'origine un mémorial sacré chez les Juifs et ordonné par Dieu. C'est un souvenir de la nuit où les Israélites qui étaient en Égypte depuis 430 ans et maintenant réduits à l'esclavage ont pris un agneau dans toutes les maisons pour l'immoler et qu'ils ont appliqué son sang sur les linteaux de toutes les portes en guise de signe pour les protéger de l'ange destructeur qui devait entrer dans toutes les maisons des Égyptiens, mais pas dans leur maison, parce que leur maison avait le sang d'un agneau. Allons dans Exode 12, 21-27. Je vous fais promener un petit peu ce matin. Exode 12, 21-27. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous la tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Bon, le peuple s'est incliné après avoir entendu ces paroles-là de Moïse, mais ils ne se sont pas inclinés pour adorer Moïse. Ils ont cru à Dieu et ils ont adoré. Certaines traductions ont « le peuple s'inclina et se prosterna ». Le peuple se prosterna en signe d'adoration devant Dieu. Lorsqu'on se prosterne, ben c'est, on est à terre directement, puis c'est pour montrer que nous on est le plus petit possible devant notre Dieu qui est grand, devant la grandeur de la majesté de notre Seigneur. Ce que Moïse venait de dire aux Israélites est allé dans leur cœur avec confiance, avec la foi que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit. C'était par la foi seulement à ce moment-là, parce qu'ils savaient que Dieu peut tout et que Dieu peut les délivrer de l'esclavage des Égyptiens. Par la foi seulement, ils ont adoré Dieu. Il n'y avait rien qui s'était fait encore, seulement qu'ils savaient que Dieu allait agir. Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont adoré Dieu avant même que la promesse ne vienne qu'à s'accomplir. Ils étaient encore dans l'épreuve et la souffrance. Ils ont adoré Dieu. Pâques vient de l'hébreu Pessa, qui signifie passage, passer outre, passer par-dessus, Passover. Bon, on voit souvent entre Easter, mais entre Easter, c'est autre chose. La Pâque, c'est Passover. Il y a quelqu'un qui a aspergé le linteau et les poteaux de nos âmes avec le sang, avec son propre sang. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jean 29, c'est Jean-Baptiste qui nous disait ça. Cet agneau parfait, sans aucun défaut, vous le savez, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice pour enlever nos péchés, pour enlever notre péché, notre nature pécheresse. Il a fait couler son sang à la croix du calvaire pour nous couvrir de la colère de Dieu qui doit venir sur les fils de la rébellion, selon Éphésiens 5:6 et Colossiens 3:6. Par son sang, nous sommes sauvés, lavés de notre péché, de notre nature pécheresse. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est notre Pâque. 1 Corinthiens 5:7 nous dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Depuis le sacrifice de Jésus à la croix, il n'y a pas une deuxième Pâque qui a été instaurée en plus de la première célébrée par les Juifs. Jésus est l'accomplissement. Jésus est la Pâque. La Pâque des Juifs était le mémorial de la libération de leur peuple de l'esclavage de Pharaon par le sang d'un agneau qui les a tout d'abord mis à part, protégés de la mort qui allait venir par la foi. Cette Pâque était l'ombre des choses à venir, une préfiguration de la Pâque plus excellente que la première. De même que Hébreux 7:22 nous dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » La Pâque, depuis le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, est le mémorial par excellence pour nous les chrétiens. Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, a libéré tous ceux que Dieu le Père lui a donnés. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4, on l'a lu tantôt. Jésus, par son sang, nous a délivrés de plus que l'esclavage de l'homme, de Pharaon. Jésus nous a délivrés de l'esclavage de Satan lui-même. Celui qui était pour nous tous, autrefois notre maître. Par la foi, encore, il nous a délivrés. Lorsque l'on s'arrête pour penser à ça, que nous avions comme maître suprême, nous tous qui sommes ici, nous avions comme maître suprême Satan. Tu es un bon garçon, une bonne fille, tu fais le bien autour de toi, tu n'es pas né de nouveau, Satan est ton maître. Tu étais très religieux, religieuse, tu faisais plein de bonnes œuvres dans ta religion pour Dieu, tu n'étais pas né de nouveau. Toute ta religiosité allait à Satan qui était alors ton maître. Tu étais esclave de Satan. Avec Dieu, c'est tout ou c'est rien. On est avec Dieu ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de zone grise, de zone de transition. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a fait passer des ténèbres à la lumière. 1 Jean 5:19 nous dit « Nous savons maintenant que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Dans Jean 17, dans sa prière envers Dieu le Père, que l'on appelle la prière sacerdotale, Jésus dit aussi que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus, si toutefois nous sommes nés de nouveau. Nous sommes préservés du monde. Nous sommes protégés d'une manière toute particulière par celui qui est au-dessus de tout et qui habite déjà par son Saint-Esprit en celui qui l'a reçu, par la foi, Jésus-Christ. Nous n'avons donc pas été protégés de la mort physique, bien que Dieu peut le faire, aussi selon son bon plaisir. Mais d'abord et avant tout, nous avons été protégés de la mort spirituelle qui est la séparation éternelle avec notre Créateur Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qu'on fête aujourd'hui, tout particulièrement à Pâques, pleinement homme et pleinement Dieu, s'est abaissé jusqu'à nous, jusqu'à la mort de la croix, pour offrir son corps en sacrifice pour notre péché et nous purifier, nous laver de notre nature pécheresse par son sang, et nous sanctifier par sa parole, et nous présenter devant Dieu le Père comme étant saint et irréprochable. Colossiens 1, 22, Éphésiens 5, 27, Éphésiens 1, 4, que nous avons lu tantôt, témoignent de ces paroles-là. Les Israélites ont adoré Dieu, oui, lorsqu'ils étaient encore dans ce monde, gouvernés par Pharaon, par la foi, sachant qu'ils obtiendraient de Dieu ce qui leur avait été promis, la délivrance de Pharaon et la terre promise. Pour nous, chérissons la parole qui nous sanctifie, adorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, par la foi, bien que nous sommes encore dans ce monde de ténèbres, gouvernés par Satan, parce que Dieu nous a fait promesse aussi. Il n'est pas un homme pour mentir. Jésus, Fils de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, est la vérité. Il nous a promis la vie éternelle en sa glorieuse présence. À notre vraie maison, là où lui-même règne éternellement. Nous avons déjà la vie éternelle, la vie avec un grand V. Avec Jésus qui est la vie éternelle, il habite en nous, par son Saint-Esprit, dont il nous a scellés éternellement. C'est accompli. Nous n'aurons pas la vie éternelle. Nous l'avons déjà en lui, en Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 4, 23, Jésus s'adresse à la femme samaritaine et lui dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Ou autrement dit, selon la Bible en français courant, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Saint-Esprit et selon sa vérité. » La vérité, c'est Jésus.
Amen.
Au verset suivant, Jean 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire guidés par son Esprit Saint, et par sa vérité, Jésus-Christ. Même si, autrefois, avant d'être sauvés, nous pouvions avoir de la considération pour Dieu, un désir d'être en sa présence, nous ne pouvions pas être de vrais adorateurs. » Parce que nous n'avions pas son Saint-Esprit en nous pour nous guider selon la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais Dieu, encore mais Dieu, comme le pasteur Guillaume nous le souligne souvent, parce que Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a aimés. Jésus nous a appelés en ce temps de grâce, dans son immense amour, à faire un avec lui, comme lui-même fait un avec le Père. Jean 17. Aucun de ceux que le Père lui a donné ne se perdra, et Jésus est le berger fidèle. Jésus est l'époux, et l'Église est l'épouse. Préparons-nous par la sanctification que Dieu lui-même nous donne, comme la fiancée qui se prépare pour les noces de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia.
Amen.
Petite parenthèse, alléluia, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup ici dans l'Église. Mais entre, c'est ça pour...
Louer l'Éternel.
Oui, c'est ça. Louer l'Éternel, louer Yah. Yahweh. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'on dit?
Amen.
Amen. C'est la bonne réponse. Comment est-ce que l'on ne pourrait pas, nous aussi, comme les Israélites, nous prosterner et adorer Dieu, notre Père Céleste, notre Créateur, d'autant plus que nous le pouvons maintenant, par l'Esprit Saint qui habite en nous, et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui par qui nous sommes et à qui nous allons pour l'éternité. N'est-ce pas merveilleux, ce privilège que nous avons maintenant en Jésus-Christ, par son Saint-Esprit? La plénitude de la vie, avec un grand V en lui, Jésus, éternel dans sa durée et éternel dans sa qualité. C'est ça la vie éternelle. Et je dis encore, nous avons déjà la vie éternelle. Premièrement, dans sa durée, que nous passions par la mort de notre corps ou par l'enlèvement, notre âme, elle, ira dans la présence glorieuse de Dieu avec un nouveau corps glorifié. Notre vie est déjà éternelle en Jésus, notre vie.
Amen.
Deuxièmement, nous avons déjà la vie éternelle également dans sa qualité. À cause de l'excellence de la promesse que Dieu nous a faite par Jésus, qui est la vérité.
Amen.
Jésus-Christ, qui est notre chemin vers notre Père céleste, nous a fait prendre ce chemin céleste d'une manière très différente de ce chemin que les Israélites ont dû emprunter pour fuir l'Égypte, fuir Pharaon, pour se sanctifier dans le désert et entrer dans la terre promise. Les Israélites sont partis avec leur fardeau, les vieillards, les enfants, et chargés de toute leur vie. Pour nous, Jésus nous a ouvert le chemin, étroit et resserré, mais parfaitement sûr, doux, paisible. Et lui, il a lui-même pris sur lui tous nos fardeaux pour nous guider dans la présence glorieuse de notre Père céleste. Quel merveilleux sauveur nous avons, Jésus-Christ. Tu as pensé, on a un chant aussi, quel merveilleux sauveur. Ah, c'est ça. Effectivement. Jésus nous a donné une paix, une joie qui nous appartient de saisir. Je le répète encore, Jésus nous a donné une paix et une joie qui nous appartient de saisir.
Amen.
Il nous a donné une paix parfaite, il nous a donné une joie parfaite par la promesse parfaite qu'il nous a faite, qu'on peut croire vraiment parce qu'il est la vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu vivante, la parole de Dieu faite chair. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Oui, vraiment, gardons la foi par le Saint-Esprit qui habite en nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la gloire de Dieu notre Père. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, j'aurais pu partager exactement sur le sacrifice de Jésus à la croix, son corps sans péché, qui était le seul sacrifice parfait, qu'il a livré pour nous, son sang qui a coulé pour nous, qui nous a purifiés de tous nos péchés pour nous présenter devant notre Père céleste comme étant saint et irréprochable, parce que rien de souillé ni d'impur ne peut entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Jésus, lui, s'est soumis au Père. Pour nous qui étions autrefois ennemis de Dieu, bien étant l'égal de Dieu, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Amen.
Philippiens, ça c'est Philippiens 2, 6 à 11. Jésus est digne de gloire, Jésus est glorieux, il est digne de toutes nos louanges, il est digne d'adoration. Jésus a tout fait pour nous. Il nous a également rappelé deux commandements. Il nous a donné deux nouveaux commandements aussi. Il nous a rappelé les deux plus grands commandements qui sont toujours d'actualité, bien que nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, qui pour nous ne sont même pas un fardeau. Une chose à se forcer à faire par les œuvres de la chair, et qui pourrait même pas de toute manière par les œuvres de la chair. Le premier commandement qu'il nous a rappelé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième qu'il nous a rappelé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit ça dans Matthieu 22, 37 et 39. Jésus nous a également donné deux nouveaux commandements. Le premier, faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 18, 19. Ça, c'était le premier commandement qu'il nous a donné. Puis le deuxième commandement qu'il nous a donné, le repas du Seigneur, la Sainte Cène. On va le faire cet après-midi, encore. 1 Corinthiens 11, 23, 29. On le connaît bien, ce passage-là. On le lit à chaque fois. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puis Seigneur, moi je crois sincèrement qu'il va venir bientôt. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Les commandements de notre Seigneur Jésus ne sont pas des propositions. Si ça te tente, si t'es pas trop fatigué, si t'as pas autre chose à faire, tu feras ça. Non. Les commandements de notre Seigneur Jésus sont des ordres, des commandements, pas dans un but légaliste, mais par amour pour lui, par révérence, par adoration, pour Dieu, pour lui et par lui, par son Saint-Esprit qui agit en nous, si toutefois son Saint-Esprit habite en nous. Laissons-nous guider par son Saint-Esprit. Et ces ordres sont ceux qui nous ont été donnés de faire, d'accomplir par le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur, le Fils de Dieu lui-même, qui est mort pour nous sauver, qui s'est humilié à l'extrême pour sauver nos âmes, pour nous réconcilier avec notre Père céleste, pour nous donner une espérance parfaite et véritable dans la présence glorieuse de notre Créateur Dieu. Amen. C'est pas au hasard que nous avons fait le repas du Seigneur dimanche dernier et que nous allons le faire encore aujourd'hui, cet après-midi. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le repas du Seigneur est une manière par excellence de nous rappeler à longueur d'année, pas seulement le jour de Pâques, la suprématie de l'œuvre rédemptrice de Dieu par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas voués à la perdition éternelle, mais que par la foi uniquement, en son sacrifice parfait à la croix, nous puissions avoir la vie éternelle dans sa présence glorieuse. Amen. Merci Saint-Esprit, toi qui habites en nous, de nous guider en toutes choses dans la sanctification. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton œuvre parfaite à la croix, pour avoir racheté nos âmes et nous désirer, nous, ton Église, ton épouse, toi qui es l'époux promis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, merci Seigneur Dieu, notre Père céleste, pour la perfection de ton amour, ta sainteté et de ta gloire infinie. Que l'on puisse nous soumettre entièrement à toi, dans ton amour, et t'adorer éternellement pour te célébrer, toi, qui es la plénitude de la gloire. Amen et amen. Adorons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Adorons Dieu. Adorons Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur Dieu, pour cette journée. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es là pour nous guider en toutes choses. Si on se guidait nous-mêmes, on le sait, lorsqu'on ne te connaissait pas encore, Seigneur, où est-ce qu'on allait? On allait dans les voies de l'ennemi, dans les voies de Satan. Parce que comme on le voyait tantôt, il n'y a pas de zone grise avec toi. On est à toi ou on ne l'est pas. Seigneur, je te demande d'éprouver les esprits de chacun qui peut entendre ce message aujourd'hui ou plus tard. Seigneur, que ce message soit là et que les esprits soient éprouvés, à savoir que les gens puissent voir vraiment est-ce que tu habites en eux. Est-ce que ce qu'ils ont pour maître le diable, ou est-ce qu'ils ont pour maître toi? Il n'y a pas d'autre maître transitoire à travers. C'est toi ou c'est l'ennemi. Seigneur, pour ceux qui te connaissent, Seigneur, c'est une joie de te connaître. C'est une joie de t'obéir, c'est une joie d'être avec toi. C'est une joie de savoir que tu es toujours là pour nous guider en toutes choses. Même lorsque l'on s'éloigne de toi, on s'en va dans les ténèbres, vers les ténèbres, Seigneur Dieu. Si tu nous as scellé de ton Saint-Esprit, tu vas toujours nous ramener et tu vas faire en sorte que l'on n'aime plus ce qu'on faisait avant. Nos pensées que l'on avait avant, nos actions que l'on avait avant et nos paroles que l'on avait avant. Tu vas nous donner de t'aimer toi et de faire à ta volonté, Seigneur Dieu. Non pas par l'égalisme, mais par amour pour toi, Seigneur. Par amour pour toi. Toi, tu es amour et tu nous as mis dans le cœur ton amour. Pour toi d'abord et avant tout. Et l'amour que tu nous as donné par-dessus tout se reflète autour de nous. Hier, dans ta parole, tu nous dis que celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Seigneur, que l'on puisse toujours grandir en toi, dans ton amour, dans la fraternité que tu nous as donnée, Seigneur, dans cette Église, et avec nos frères et nos sœurs qui sont dans les autres assemblées, Seigneur, que l'on puisse avoir une proximité, une joie avec eux, que l'on ne puisse pas dire du mal de personne, que l'on ne puisse pas avoir de mauvaises pensées ou de ne pas pardonner envers quelqu'un autour de nous parce que toi, tu nous as pardonné, tu nous as racheté, parce que tu as eu pitié de nous, tu nous as... On était voués à la perdition, mais toi, avant la fondation du monde, tu as voulu que l'on soit avec toi, en ta présence glorieuse, pour pouvoir célébrer ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et vraiment, ô Dieu, que l'on puisse tout faire pour ta gloire dès maintenant et pour l'éternité, Seigneur. C'est par ton Saint-Esprit qu'on te prie ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
S'il y en a qui ont quelque chose à prier, qui veulent prier, vous êtes libre de prier.